Du 29 juin au 21 juillet, RMC se dédouble avec la radio digitale RMC 100% route. Toutes les étapes en direct, analyse, décryptage avec la Dream Team RMC et vous au 3216, touche 9. Alors pour la grande boucle en direct et en intégralité, téléchargez l'appli RMC. RMC 100% route avec Lidl. RMC, bien plus qu'une radio. Vous écoutez
RMC.
RMC.
L'avion va s'emballer. Et applaudir les joueurs. Oui.
On a fait Paris, Dubaï, Dubaï, Istanbul, Istanbul, Casablanca, Casablanca, Ouagadougou.
L'effectif n'est pas du tout le même, donc il faut passer à des choses peut-être un peu moins gling-gling, on va dire.
Rien n'est jamais tombé justement sur un plateau d'argent pour eux.
Jusqu'à minuit 30, l'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit et demi sur RMC, sur la chaîne YouTube After-Foot. L'After est là, premier podcast de France, espace de liberté de tous les supporters. Au 32-16, n'oubliez pas qu'après l'After, il y aura la libre antenne de l'After jusqu'à 1h30 du matin avec Oussem Moussaïef, Julien Cazard et Walid Acherchour ce soir. Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Kevin Diaz est là, salut Kevin.
Salut à tous.
Kevin, l'homme du samedi soir.
Et
voilà,
ouais.
Le samedi soir, c'est sa case.
Saturday Night Fever.
Ouais. Voilà.
Friday, Saturday.
Qualification de la Suisse, qualification de l'Allemagne. 2-0 les scores du jour. 2-0 pour les Suisses face aux Italiens. 2-0 pour les Allemands face aux Danois. Donc la Suisse qui a comme perspective d'affronter pourquoi pas l'Angleterre. Le match des Anglais, c'est demain face à la Slovaquie. Et l'Allemagne qui affrontera le vainqueur du match Espagne-Géorgie. On va analyser tout ça avec les drôles de la
mort. Polo, il va placer trois équipes en quart.
Et il est là, Polo, il est là.
Son pays plus les deux dépendances.
Attends, l'Autriche n'est pas qualifiée.
Oui, mais j'ai le droit d'envisager.
Tu peux
l'envisager. L'Autriche, donc ça va faire ses trois pays à lui.
L'Autriche,
c'est son football qui domine.
L'Autriche, c'est pas une petite dépendance de l'Italie aussi? C'est pas très loin, non?
On va dire qu'historiquement, c'est plus une dépendance pour l'Allemagne quand même.
Oui, en effet.
Selon Giroud.
Nous, c'était pas vraiment dans ce sens-là. C'est plutôt eux qui ont essayé de venir mettre les chaussons chez nous. C'est pas la même chose.
Alors, bien sûr, jusqu'à minuit 30, on est là. Je vous rappelle qu'on est à 49 jours de la reprise de la Ligue 1. Toujours la faillite est là, hein. Toujours pas de contrat de droit télé, on attend. On ne voit rien venir. Avant d'accueillir Polo Breitner, j'aimerais faire une petite incursion dans le domaine de l'arbitrage.
Ah oui ?
Oui, Stéphane Lannoy est là, notre
Pourquoi
arbitre. Parce que.
Alors, est-ce que historiquement, il va répondre, mais comme ça lui permet de m'entendre. Mm-hmm. Est-ce qu'historiquement, Stéphane Lannoy n'était pas contre la VAR, puis était devenu pour la VAR ? Et on ne sait plus trop où il en est aujourd'hui, bah, et nous non plus d'ailleurs.
Enfin,
nous, on sait
point.
Où on en est, puisqu'on n'a jamais changé d'avis.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous. Bonsoir.
Salut Stéphane.
Bonsoir Daniel. Bonsoir Kevin.
Salut Stéphane.
En effet, Daniel, tu avais bien suivi mes différentes évolutions au regard de l'assistance vidéo. Au départ, j'y étais. Au tout début de sa mise en place, j'y étais farouchement opposé, pour une bonne et simple raison. C'est que je craignais qu'en mettant le doigt dans l'assistance vidéo, on aille beaucoup trop loin et qu'à un moment donné, on ne se satisfasse pas seulement de revenir sur des décisions de pénalty, de carton rouge, de but ou d'erreur d'identité, mais qu'on aille beaucoup plus loin au risque de déresponsabiliser de plus en plus les arbitres. Et puis, avec l'évolution des choses, je me suis rendu compte que finalement, l'assistance vidéo restait dans un cadre qui était quand même bien réglementé et que ça permettait quand même de corriger pas mal d'erreurs manifestes finalement. Donc, vous voyez par exemple ce soir, sans l'utilisation de la VAR, le premier but du Danemark aurait été validé. Le pénalty pour la faute de main n'aurait pas été sifflé, donc voilà. Donc,
oui, mais Stéphane, il y a problème.
Oui, mais le problème, c'est. Ouais.
On n'en peut plus de ces hors-jeux là. Lukaku, l'autre jour, 1 cm de pied. Si, en gros, si Lukaku fait du 39 et pas du 47, il n'y a pas hors-jeu. Pareil ouais. Ce soir pour le Danois. On voit jamais le départ du ballon. La technologie est remise en question.
Le péno, pour un pouce.
Le péno, il suffit de tirer dans les bras en fait, du mec d'en face, il y a péno.
Non, mais Stéphane.
En fait, alors moi, je comprends que l'application stricte.
Après, okay. Si Stéphane nous dit que ce soir tout a été bien fait,
mais l'esprit du jeu, c'est une catastrophe. L'esprit du jeu, c'est une catastrophe, on n'en peut plus.
Et puis Stéphane, vous qui suivez quand même, je pense, tous les championnats, notamment en France, moi je suis quand même désolé, mais à partir du moment où vous, vous considérez ce soir que les règles, en tout cas mises en place par l'IFAB ou par l'UEFA pour ce tournoi, sont respectées? Mais moi, c'est pas mon football en fait ce soir. Je suis désolé, Stéphane. Pour moi, le hors-jeu, la règle du hors-jeu initial, vous m'arrêtez si je me trompe. La règle du hors-jeu, c'est si un attaquant est sur la même ligne que le dernier défenseur, il est dans ce cas-là en jeu pour aller marquer un but. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ligne à l'œil nu d'un arbitre assistant ou d'un arbitre de ligne, je ne sais pas comment on l'appelle. On parle d'une pointe de chaussure. Si le mec fait du 47, il est hors-jeu. Si le mec fait du 42, il n'est pas hors-jeu. Pas ça la règle initiale. Pareil pour la règle des mains, et après je vous laisse répondre. La règle des mains, c'est une main qui doit être volontaire. À la base, c'est une main qui doit être volontaire. Si vous considérez que dans mon football, ou dans le football qu'on a aimé, cette main doit être sifflée parce que c'est une main volontaire.
C'est pas lui qui arbitre l'histoire.
Je sais bien, mais Stéphane dit que pour lui, il y a eu des erreurs manifestes qui ont été remis en cause ou mises en lumière. Mais vous avez complètement tort pour mon foot. Donc je sais pas.
Non, mais je comprends Kevin, votre position qui est du reste, je pense la même pour Daniel et pour Gilbert, parce que vous êtes des passionnés de football, et on est tous des passionnés de football avant tout, même les arbitres sont passionnés de football, et évidemment de se dire de refuser un but pour 1 cm ou 2 cm, c'est complètement stupide. On laisse plus la possibilité aux attaquants de s'exprimer. Dans le doute, on laisse plus la possibilité de faire vivre le spectacle, d'être générateur de buts marqués, de favoriser le jeu. Et aujourd'hui, on en arrive à refuser des buts pour 1 cm. Maintenant, c'est la règle. Plus personne ne peut venir aujourd'hui contester l'outil qui est extrêmement pointu.
Non, Stéphane, moi je le conteste. Parce que à quel moment décide-t-on du hors-jeu quand le ballon quitte le pied? Est-ce que on a la technologie avec plus dans le ballon et tout, mais c'est au moment où le ballon quitte le pied pour la dernière passe. On ne voit jamais cette image.
Non, pas du tout. Et c'est pour ça, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire, autant par le passé, on pouvait discuter du départ du ballon, quelle image est utilisée, à quel moment, est-ce que c'est cette image-ci, celle juste avant, celle juste après. Et donc, évidemment, quand on utilise une image et quand il y en a 300 par seconde, laquelle utilise-t-on vraiment pour définir le point de départ du ballon? Tout ça était très aléatoire au départ, et ça pouvait générer des différences. Aujourd'hui, et ce qu'il faut bien savoir, et ça me permet de rappeler la règle aux auditeurs d'RMC, c'est qu'il y a 12 caméras sous les toits du stade qui sont utilisées uniquement pour le hors-jeu. Vous avez un capteur au centre du ballon et qui, lui, envoie des données, 300 données par seconde, systématiquement, en temps réel, tout le temps. Dès lors que le joueur touche le ballon, c'est pas au moment où il quitte le pied, c'est au moment où il touche le ballon, le capteur envoie donc au centre de visionnage les images précises du point de contact. Et à partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle entre en ligne de compte, analyse les données du capteur du ballon, les 12 caméras qui reprennent 29 points corporel sur chacun des joueurs, avec toutes les extrémités. Je rappelle que dans la règle du hors-jeu, les mains, les bras ne comptent pas, mais toutes les autres extrémités, bout du pied, genou, la tête, tout ce que vous voulez, 29 points corporels. Toutes ces données sont digérées par l'intelligence artificielle, qui finit par vous renvoyer derrière une incrustation image en 3D pour vous dire, bah oui, l'attaquant, je suis désolé, mais l'attaquant est hors jeu de 2 cm d'un bout de chaussure. Voilà, c'est la règle.
Que de moyens déployés, que de technologies.
Beaucoup. Ah oui, énormément, Daniel.
Je finirai par dire, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des différents championnats qu'on pouvait suivre. Bah, moi, l'année dernière, je préférais voir un match de Ligue 2 qu'un match de Ligue 1, parce qu'en Ligue 2, il n'y a pas le VAR. Et l'année prochaine, je préférais voir un match de National qu'un match de Ligue 2, et on redescendra aussi bas, et vous verrez qu'on en reviendra à ça, et que le désamour des gens pour ce sport, outre pas mal de choses que ce business est en train d'englober, d'englober, j'ai envie de dire, ou de tuer, et ben la VAR en fait également partie.
Oui, et malheureusement, la suite logique, c'est qu'il y aura bientôt plus d'arbitres. L'intelligence artificielle fera tout. Merci Stéphane.
Mais je vous en prie.
À très bientôt. On va parler de tous ces sujets passionnants. Stéphane Lannoy avec nous.
Moi, la vérité, je trouve que tout ça ne sert plus à rien.
Quoi d'en parler ?
Oui, parce que ça a animé nos discussions, nos débats pendant des années. Quand on a combattu cette idée, qu'on sentait que ça allait arriver, je pense qu'on a été extrêmement précurseurs dans ce domaine et dans les débats qu'on a mis en avant. Surtout qu'on était, il y avait que nous qui étions contre la VAR. Tout le monde pensait que c'était le progressisme des choses, la normalité qui allait arriver. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont sceptiques, beaucoup ont fait marche arrière. Mais au fond, je suis un peu désabusé parce que pendant un moment, j'étais très fier de ça. On était les seuls, on faisait des grands débats là-dessus. Mais en fait, non seulement il n'y a pas de retour en arrière possible, mais on va pousser encore plus loin la technologie puisqu'il va falloir tester et utiliser tous les outils intelligence artificielle. Il y a un an, il n'y avait pas. Maintenant, c'est capteur dans ballon pour... T'as vu, pour le pouce, c'est limite le cœur qui bat.
Ouais, non.
Donc,
l'intensité... Je dis, les arbitres, en autorisant ça, en fait, ont signé leur arrêt de mort. Voilà. Oui. Bientôt, il n'y aura plus d'arbitres, en fait.
C'est même pas ça.
Ça ne sert même plus à rien qu'on en parle.
Bah si, ça sert parce que... par exemple, il n'y avait jamais pénalty sur le match entre le Portugal et la Géorgie où le défenseur de Benfica la touche le joueur alors que le joueur amplifie largement son contact.
Bien sûr qu'il y a péno.
Jamais de la vie. Ah,
pour moi,
tu vois, c'est pas manifeste. Donc si c'est pas manifeste, il faut pas revenir. Tu vois ce que je veux dire? La règle, c'est ça.
Les gars, si
c'est
pas manifeste, il faut pas revenir. On a un raccourci à cause de leur âge tout à l'heure là, donc on va retrouver Paulo Brancard dans quelques instants, analyser
justement,
le match de l'Allemagne.
Tous les contacts ne sont pas une faute, Daniel.
Et ensuite le match de l'Italie et de la Suisse.
Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Exagère, ça veut dire que c'est pas vrai.
Et bien sûr que si.
Ah non.
À tout de suite dans la fin.
Non, pas du tout.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC. L'afterfoot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
23h34, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là également. Paulo Breitner nous rejoint. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
L'Allemagne est qualifiée.
Sera rejointe par l'Autriche bientôt et la Suisse également. Bravo Paulo. C'est un triplé. Annoncé.
On verra,
tu as raison. Bon, est-ce que tu as l'impression d'une Allemagne qui monte en puissance ou est-ce que malgré tout tu te poses quand même pas mal de questions ce soir ?
Je me pose toujours les mêmes questions. Cette équipe est fondamentalement très 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 talentueuse, mais elle est fondamentalement friable. Et ça, c'est l'absence de vécu qui fait que la première tournoi version Nagelsmann avec des jeunes dans son équipe, qui fait qu'elle n'a pas le passé de ses grandes devancières. Et ça se ressent, c'est-à-dire que le 3-0, il doit être réglé très rapidement par les Allemands. Ils ne le font pas parce qu'ils font les mauvais choix, etc. Il y a des points positifs. Ce soir, j'ai beaucoup aimé la défense centrale, Rüdiger Schotterbeck, par rapport à Rüdiger Jonathan Tah. Il y a des, notamment dans les 30 derniers mètres des Danois dans leur surface, il y a plein de mauvais choix faits par les Allemands alors qu'ils sont supérieurs. Et puis il y a toujours ce problème d'ouvrir le score qui permettrait de dérouler par la suite. Ce soir, il y a quand même, vous en avez parlé, j'ai pas voulu intervenir, vous avez parlé de la VAR et tout ça. Ça se joue quand même sur une décision arbitrale, pas grand chose, quoi. C'est-à-dire que moi, le but danois, je l'aurais pas accordé. Non pas parce qu'il y avait 2 cm, mais parce que Andersen est hors-jeu, il revient, et c'est cette fameuse règle du hors-jeu passif et tout ça, qui est débile, mais c'est pas grave, c'est comme ça, on est au 21e siècle. Non, mais je le pense vraiment, le mec, il est hors-jeu, et ça n'existe pas. Un défenseur qui ne regarde pas où sont les autres, ça n'existe pas. Donc la notion de passivité n'existe pas. C'est un truc complètement délirant, en philosophie, si vous voulez, mais c'est pas grave. Donc quand tu regardes la rencontre, tu vois bien que les Allemands sont supérieurs aux Danois, mais qu'ils ne maîtrisent encore une fois pas une rencontre pendant 90 minutes. Choix fort fait par Nagelsmann, de mettre David Röhm, de mettre Leroy Sané à la place de Wirtz, et puis il m'en manque un troisième, oui, Schlotterbeck, évidemment. Mais, et même les quand il a fait rentrer les équipes, ses joueurs, il a joué avec deux attaquants pendant un moment, c'est ce que je réclame, ou ce que je voulais voir plusieurs fois. Donc il y a plein de points positifs, mais de là à dire que la Nationalmannschaft est un candidat dans son tournoi au titre, ça me semble un petit peu pousser le bouchon un peu trop loin pour l'instant.
Ah non, mais bien sûr, que c'est, bien sûr que c'est des candidats.
En match dans l'ordre et tout, ça vous embête pas quand même parce que... Non mais c'est vrai, on est un peu parti.
Reprends le fil de cette émission.
On peut faire une considération générale avant de reprendre le match.
Reprends le fil de cette émission, alors, Daniel.
Okay. Oui. Ne reprenons pas le fil. Je vais répondre à Polo. J'entends ce que tu dis. Maintenant, dans cet Euro, je n'arrive pas à trouver une équipe. Demain soir, on va revoir l'Espagne, mais je n'arrive pas à trouver une équipe qui affiche ce que tu réclames de l'Allemagne. Ça ne veut pas dire que je suis pas d'accord avec toi. Mais je vois plein d'équipes qui jouent par séquence, qui par séquence sont... Alors en plus, le match de ce soir a été très particulier, puisque pour le coup, il y avait des vraies séquences avec les arrêts de jeu qui ont quand même, je trouve, fortement perturbé l'analyse qu'on peut avoir de la rencontre. Tu t'arrêtes 25 minutes, après t'as la mi-temps, après tu reviens. Et par séquence, j'ai trouvé les Allemands très bons. Et après, comme tu dis, sur d'autres séquences... nettement moins bien, ou oui, tu te dis, bah tiens, là, ils sont friables, tiens, bon, après, ils ne jouent pas tout seuls, ils jouent face à des Danois qui ont toujours affiché dans les compétitions internationales des équipes qui étaient capables de créer des choses face à n'importe qui. Donc, je ne sais pas si tu es trop exigeant en voulant que l'Allemagne écrase complètement son match, mais ils ne jouent pas tout seuls. Et encore une fois, comparé à tous les autres, moi, je vois pas d'équipe. Peut-être que l'Espagne nous montrera demain, si elle est parfaite encore contre la Géorgie, que c'est la seule équipe de cet Euro qui arrive à avoir une continuité dans le contenu de ses matchs. Pour le reste, moi, j'ai vu le premier match de la Suisse, c'était très moyen. Derrière, ils nous font que forte impression. Les Pays-Bas, c'est un coup oui, un coup non, voilà. On a eu l'Angleterre, on n'en parle même pas. C'est même pas des bribes de bonnes séquences qu'ils ont, c'est pas grand-chose. France, c'est la même chose. Le Portugal, c'est un coup oui, un coup non, on ne sait pas trop où on est. J'ai l'impression quand même que dans ce tableau, l'Allemagne ne s'en tire pas si mal avec, tu l'as dit, toujours... beaucoup de joueurs talentueux. Les 20 premières minutes de l'Allemagne ce soir, je les ai trouvées dingues. J'ai adoré ce qu'elle a proposé dans cette séquence-là. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, il y a eu des choix que Nagelsmann a fait. Pour l'instant, je ne partage pas tous ces choix. Je suis de plus en plus convaincu que Füllkrug doit jouer, même si Havertz ne fait pas un mauvais match ce soir. Il a sorti Wirtz pour mettre Sané. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'imagine que Leroy Sané t'a montré son visage habituel et que il ne doit pas y avoir une grande réconciliation entre mais vous.
Il n'a pas gagné sa place. On va dire.
Voilà. Franchement, je suis désolé, les gars, mais je suis rarement catégorique comme ça. Mais Leroy Sané, c'est pas possible.
C'est pour ça.
C'est pas possible.
Oui, c'était un choix.
Il fait des contrôles à 3 mètres.
J'étais étonné que Nagelsmann.
Ah, il va vite, mais c'est tout.
Certains en Allemagne ont considéré que Wirtz n'avait pas été forcément extraordinaire.
Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre.
Ok, c'est vrai, mais. Je lui aurais maintenu quand même une forme de confiance sur toute la compète, parce que de toute façon, c'est pas Leroy Sané qui va l'inquiéter. On a continué de voir un Moussiala très bon. Et là où il y avait un autre choix, et là, je sais pas si tu l'as dit, Polo, mais en tout cas, je sais pas si t'en as parlé, je t'ai pas entendu, mais la défense centrale, je pense que c'est celle-là qu'il faut jouer. Hein.
Ouais, moi, j'aime.
C'est de loin la celle qui a le plus rassuré. Parce que
moi, déjà, je l'avais beaucoup aimé avec Dortmund contre le PSG sur les deux matchs. J'en avais très souvent parlé, en ayant du mal à dire son nom, qui est pourtant très simple à dire.
Tu peux dire Flotty.
Mais je kiffe ce joueur. Vraiment, j'aime beaucoup ce joueur.
Bah, même si à un moment, il fait une erreur, Polo, pour un mi-temps. Il marque sur le ballon, là, il a bien failli coûter un but à son équipe.
Donc, je sais pas ce que t'en penses, Polo, de ce que je dis, parce qu'une équipe, il faut aussi la prendre dans son contexte du moment.
Bah oui, mais tu as dit à peu près ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que il y a des moments où l'Allemagne se balade. Les 20 premières minutes, l'Allemagne s'est baladée face aux Danois, ils ont balayé de la rencontre. Le problème, c'est qu'ils profitent pas de ce moment pour marquer.
Ouais.
Et ça, c'est récurrent. C'est-à-dire que c'est toujours. Je pense pas que ça a à voir avec la dernière décennie où les Allemands arrivaient pas à marquer, où ils voulaient rentrer dans le but avec le ballon, etc.
Ouais.
C'est juste que l'animation offensive dans l'avant-dernière passe parfois n'est pas bonne, dans la dernière passe elle est pas bonne. La question de Kai Havertz qui te fait des coups merveilleux. Et puis qui rate parfois des choses très faciles ou hors jeu comme au moment où il ne faudrait pas l'être. Mais et puis c'est ce fait de s'écrouler, parce qu'ensuite dès que les Danois ont commencé à ressortir la tête de l'eau, et tu as raison de rappeler que les Danois c'est pas des billes,
ouais.
Le génération après génération, ils ont réussi, mais tu vois que techniquement ils sont pas au niveau des Allemands. Et même s'ils ont leur jeu, etc., ils étaient invaincus. C'est une équipe qui est invaincue en 2004 comme la Nationalmannschaft, donc il y a quand même de la confiance, etc. Mais les Allemands n'ont pas ce vécu qu'ils avaient dans les grandes équipes allemandes, et donc Donc, tu es toujours en train de te dire, est-ce qu'on va tenir le 2-0? Est-ce qu'il va y avoir 2-1? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le 3-0? Et ce soir, quand tu vois les occasions pour mettre le 3-0, et puis, vous en avez parlé avant, quand même, l'effet de jeu, quoi. Enfin, le fait, évidemment, que le but danois soit refusé, puis ensuite, il y a pénalty 42 secondes après. Pour eux, ça tourne pour les Allemands. Ça aurait pu très bien être l'inverse, et on ne sait pas
ouais,
comment
ça tourne. Mais ça tourne, ça. Je suis d'accord, ça tourne. Comme le premier but de la tête, bon, on a vu après, sur les images, qu'il y avait peut-être un bloc de Kimmich, ce qui est vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais Daniel, tu regardes les deux équipes, l'Allemagne, pour moi, est bien supérieure.
Ah bah oui, elle est supérieure.
Mais Polo, okay. vous parliez des équipes qui ont un peu du mal avec l'adversité, qui n'arrivent pas à contrôler un match. Mais je pense que ce football-là, il est terminé. Hein.
Je suis d'accord.
Et ce football-là, il est terminé, notamment en Ligue des Champions.
On a un football de séquence. En fait.
Et on a un football de séquence, pourquoi ? Parce qu'on a un football qui, même si le niveau global de certaines équipes, on peut considérer que les grandes nations, l'Italie, même la France, n'a plus des joueurs de classe mondiale à tous les postes, comme ça a été le cas à une époque. Mais c'est aussi parce que les adversaires sont bien meilleurs. Aujourd'hui, la Suisse est bien meilleure, le Danemark est bien meilleur qu'à une certaine époque. Même la Géorgie pose des problèmes à n'importe quelle nation européenne. Et donc, ça veut dire que sur 90 minutes, un peu à l'image de ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines compétitions, et bah, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro.
Je ne sais pas si ça tient au fait. Les Danois, ils ont toujours
proposé mais les Danois, attention, parce que les Allemands sont un peu moins forts qu'avant, mais les adverses. Si,
mais je sais pas
pour si moi, si. Les Allemands sont. C'est mon avis. C'est que les Allemands, les Français, les Portugais, en tout cas par rapport à leur grande génération, Kevin, sont peut-être Kevin, un Kevin, peu moins dominants Kevin, qu'avant, Kevin. Mais je pense aussi que les adversaires sont un peu meilleurs.
Je vais proposer une autre explication.
Ils sont moins expérimentés, ils ont moins de caractère, les joueurs.
Le quatuor offensif des Allemands ce soir, en termes techniques, les Allemands n'ont pas souvent eu ça.
Oui, en termes techniques, mais en termes de caractère.
Ah, bah donc on va.
Et l'Italie, ce sera pareil.
Ah,
mais c'est ce que je te dis, mais attention, Mais pour moi, un grand joueur, c'est le caractère. Si je te parle d'un Rui Costa, si je te parle d'un Totti, si je te parle d'un Schweinsteiger.
Le caractère, c'est ce qui va te permettre d'être consistant sur la durée.
C'est ce qui va te permettre d'écraser ton adversaire.
Là, moi, j'ai l'impression qu'on a des joueurs qui sont de plus en plus un petit peu jeunes, caractériels.
Mais c'est ce que je te dis.
Qui ne sont pas tout le temps très costauds.
Il faut pas, il y a un recruteur.
Si tu me laisses terminer, c'est bien aussi.
Vas-y.
Mais bon, qu'est-ce que tu proposes?
C'est quand même Daniel le spécialiste de ne pas laisser finir, mais vas-y.
Non, mais là, en l'occurrence,
vas-y. J'allais juste complémenter, mais vas-y.
Vas-y.
Complète. J'allais dire, tu vois, tu parlais de caractère. Il y a un recruteur qui m'a dit, il y a 3 mois, il m'a dit, faut pas se tromper. Il y a une grande différence entre une équipe de joueurs de caractère et une équipe de caractériel. C'est exactement ce que tu viens de dire.
Donc, alors pour le coup, l'Italie n'entre pas du tout dans ce cas de figure-là parce que eux, ce qu'ils proposent, c'est quelque chose qui est quasiment jamais vu dans le football italien en termes quasiment de nullité, ce qu'on veut dire. Mais en revanche, les Portugais, en termes de qualité d'effectifs, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu des joueurs aussi forts que ça en termes de technique. Les Allemands, techniquement, franchement, c'est parfait. Rudiger, c'est un super défenseur. Au milieu, t'as Kroos, t'as Kimmich à droite. J'aime beaucoup leur arrière gauche là, à Rome. Non, vraiment, c'est bien. Mais ok, là, c'est sûr que Polo doit penser ça aussi, et je le pense. En termes de caractère global, collectif, de volonté de gagner, d'écraser l'adversaire, on n'est plus. Ces joueurs-là ont un peu disparu de notre football. T'as des mecs qui arrivent, qui par séquence vont être bien, parce que aussi le football repose tellement sur l'intensité que soit tu la mets pas sur la durée, soit tu la mets par petite séquence. Le football a considérablement changé ces dernières années, on le dit pas assez.
Il faut dire aussi que la presse allemande, alors dans ces conditions, est en retard. Parce que la presse allemande, avant la rencontre, était persuadée que la Nationalmannschaft ne pouvait pas passer l'Espagne en quart de finale. Mais surtout, elle réclamait une augmentation drastique du niveau de jeu de la Nationalmannschaft. Et elle voulait voir des buts. Donc j'ai presque envie de dire à l'ancienne, d'écraser ses adversaires. Et donc ça veut dire que la presse allemande doit aussi faire son propre mea culpa sur l'évolution du football qu'elle n'a pas vu non plus. Moi, je vois des phases de jeu où les Allemands se mettent à reculer. Il y a plus de pressing sur l'adversaire. Tu as très bien dit. Les Danois ont une belle équipe, mais les Allemands sont supérieurs techniquement parlant. Ils dominent. Moi, je regarde toujours le nombre de passes faites, le nombre de passes réussies, etc. Quand il y a 2-0, il y a des moments, ils menaient 2-0 et ils commençaient à trouver le moyen de perdre le ballon alors que le 3-0 s'offrait à eux. Et donc, toutes ces choses-là font que je reste extrêmement dubitatif sur une possibilité d'aller chercher chez eux, mais tant mieux s'ils y arrivent, 7 euros 2024 et qu'ils sont toujours dans une logique d'exorciser les Coupes du Monde 2018-2022.
à part une Espagne, si elle continue d'avoir ce niveau, je vois pas pourquoi l'Allemagne serait pas candidat.
C'est l'Allemagne et
l'Espagne. Mais ils vont s'affronter en quart. Bah,
évaluation voilà, après le match de l'Allemagne. Et puis ensuite, on passera à Suisse Italie. L'after est là jusqu'à minuit 30. À tout de suite.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Ah, le patron, c'est les rois.
Lidl ?
Ah oui, les rois de la bicyclette cet été sur les routes de France.
Mais comment ça ? Tu dérailles ?
Oh non, patron, ça roule. Lidl est co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
Quoi ? Lidl, co-sponsor de l'équipe Lidl Trek ? Ou j'en perds les pédales ?
Ah ça, question sponsoring, ils en connaissent un rayon.
Là, t'as intérêt à mettre la pédale douce, hein. T'es mal, hein. Et tu l'auras pas, Béo. Volé.
Lidl, co-sponsor de l'équipe cycliste Lidl Trek.
RMC, l'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h49, Kevin Biagella, Daniel Riolo et là, Paulo Breitner. Et là, on analyse la victoire de l'Allemagne face au Danemark. Qui a été l'homme du match, selon toi, Paulo ?
Oh, Moussiala m'a pas l'air loin, quand même, ouais, encore une fois, dans sa rencontre.
Je pense que je le mets pas loin, ouais.
Rudiger a été impressionnant, mais par rapport à son niveau des matchs de groupe. Et puis il y a le vieux de la vieille, quoi. Neuer, il est toujours là.
Hein. Ouais, Neuer, il est toujours là.
Neuer décisif ce soir, ça c'est sûr.
Ouais, j'ai beaucoup aimé. Hein,
parce autant que il a fait des matchs bof.
Voilà, la sortie de Neuer sur Højlund en première mi-temps sur ce piqué là où il jaillit bien dans le pied.
Il fait un bon match. C'est par rapport à ce qu'on disait juste avant. Sur les caractères, j'ai vu passer un commentaire. Bon, il est plus là, mais c'était pendant la pub sur le chat, mais
sur YouTube.
Sur YouTube, j'ai oublié, pardon, celui qui a dit ça. Mais on est également dans un football où la grande tendance, c'est le super pouvoir de l'entraîneur, et évidemment initié par la mode Guardiola et tous les entraîneurs qui ont voulu lui ressembler. Et énormément de coachs n'aiment plus les joueurs de caractère. Ils veulent avoir des petits soldats qui respectent les schémas mis en place, mais on ne veut plus de joueurs de caractère.
Pas faux. Ben c'est comme pour ça qu'à Maradona,
des enfants. Et tu sais que ça, exactement. Tu l'as même à ton niveau, Kevin. Tu l'as même au niveau où tu évolues, et même en dessous, avec tous ces coachs qui ont un boulard pas possible et qui se prennent pour les petits rois avec les joueurs. Tu fais ça, et les joueurs de caractère disparaissent parce que ces coachs-là n'en veulent plus.
C'est pour ça qu'un Maradona n'aurait jamais réussi dans la galaxie Red Bull.
Ah oui, ça va, oui.
C'est pour moi, c'est l'exemple ultime, quoi. C'est Maradona n'aurait pas existé. Comme Rebic a échoué parce qu'il était rentré pas dans le moule de la galaxie Red Bull. Et par contre, ça veut pas dire qu'il a pas fait une belle carrière.
Oui. Il y en a plein comme ça. Aussi, ces coachs-là, le super pouvoir des coachs, il faudrait s'y intéresser un soir. Ouais. Ça a beaucoup. Ah voilà, il a remis Bam Bam sur les entraîneurs qui n'aiment pas les caractères. Oui, effectivement, comme Guardiola. Notamment.
Alors que eux, en général, on en a un gros, quoi.
Après, attention, parce que
il faut pas que le caractère.
Un gars comme Kevin De Bruyne, c'est un gars qui a un gros caractère. Et pourtant, il arrive à travailler avec Guardiola.
Pas toujours facile.
Ouais. Loïc est avec nous au 32-16. Il suit l'Allemagne de près. Loïc, bonsoir.
Merci, bonsoir à tous. Merci de me faire une petite place dans votre émission. C'est cool.
Bah, écoute, c'est un plaisir.
Salut Loïc. On t'écoute. Loïc.
Tu veux parler de quel joueur, toi ? On est sur l'évaluation, là.
Alors juste avant, je tiens à rappeler mon idolation. Je sais pas comment on dit. Je suis totalement fan de Kevin Diaz, hein, bien sûr, c'est moi qui appelle à chaque fois et qui dit que c'est le numéro 10 de la peur, n'oublie jamais.
Merci. Je croyais que t'allais dire Daniel Riolo, t'allais te tromper.
Daniel Riolo, c'est le Thomas Müller de l'after, on peut pas
putain merde, il est sur la fin, laisse-moi encore quelques années.
Non, mais tu peux servir encore, Daniel. Mais voilà, faut faire place à l'avenir et c'est Kevin Diaz.
Bref,
mis à part ça, je voulais revenir un peu sur le match. Bon, bah, après, Paulo a dit pas mal de choses qui sont assez vraies sur l'Allemagne. En général, ils se trompent pas souvent. Moi, j'ai quand même un petit.
C'est bien le noter.
Pas un coup de gueule, mais j'ai quand même envie de j'ai envie de faire la place à Funkrug. Vraiment, ça y est, Kaya Wert, on voit que c'est pas un numéro 9. On voit qu'il a du mal. Bon, là, il marque sur penalty, même si je pense que ça aurait été sympa de la donner à Musiala pour que quand même il cherche la place de meilleur buteur. Avert, je sais pas, j'arrive pas à me...
Pourquoi il met pas Avert sur le côté
j'allais poser
à la place
la question,
de Leroy Sané.
Mais le truc, c'est qu'il ne le fait plus. et je sais pas s'il peut le faire encore.
Non, mais en tant que deuxième numéro 10, comme
Non, mais tu peux le faire, tu peux faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le choix de Nagelsmann ce soir à la 65e minute, lorsqu'il fait rentrer Füllkrug et qu'il garde Havertz. Ça te donne deux possibilités avec deux milieux excentrés. C'est des choses qui sont intéressantes parce qu'il a son 4-2-3-1 avec trois milieux offensifs, très bien. Il le fait. Il y a différentes possibilités. Havertz en neuf, ça ne fonctionne pas, mais ça se trouve, c'est Havertz qui va faire le match de sa vie contre l'Espagne en quart, et on dira bah finalement ça marche. Mmh. Moi, le problème. Ouais, encore une fois, c'est ce vécu qu'on n'a pas. C'est ce vécu que je vois dans Nagelsmann lorsqu'il dit j'ai besoin absolument d'un plan B, d'un plan d'urgence au cas où. Et le cas où, c'est Füllkrug. C'est-à-dire que si Füllkrug, ça ne marche pas alors qu'il est titulaire, ben, il n'a pas grand-chose derrière. Par contre, la possibilité de jouer avec deux attaquants, la possibilité, ce qu'il a fait depuis le début, de jouer avec trois milieux offensifs, avec Gundogan en 8-10, la possibilité de mettre Undav, qui, moi, serait génial. Il a fait une saison avec justement l'équivalent de Füllkrug, avec Guirassy, qui a très bien fonctionner. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Pourquoi pas mettre Havertz sur l'aile? Mais moi, on l'a vu plusieurs fois en équipe nationale. Ça fonctionne pas des masses. Le problème, c'est que si tu décides de... Oui.
Polo, moi j'avais une question. Est-ce que c'est vraiment, vraiment inenvisageable de voir un 3-5-2 face à l'Espagne avec peut-être Emre Can ou Schlotterbeck et le retour?
Non, mais on peut le faire. Le problème, c'est que tu vas avoir un problème de place devant. C'est qui tes trois? Füllkrug, Havertz et Havertz et Moussiala?
Ouais, tu sors
Gundogan. Ça serait pas mal.
Tu sors Gundogan, c'est ton capitaine, c'est compliqué.
Gundogan, il reste. Gundogan, il est intouchable.
C'est compliqué. Pourtant, Gundogan, on le voit pas beaucoup quand même dans le match.
Ben, c'est ça.
Mais on l'a bien vu lors de la deuxième rencontre quand même.
C'est vrai qu'il
a pas fait un grand match. Ouais, il a pas fait un grand match. D'un autre côté, on se plaignait ces dernières saisons que les Allemands se prenaient beaucoup de buts, etc. Ce soir, ils en prennent pas encore. Il y a des choses comme ça. Je suis plus estomaqué et embêté par le match contre la Suisse où j'ai retrouvé une équipe d'Allemagne mauvaise, mais pas celle d'aujourd'hui. Une équipe d'Allemagne historique qui, lorsqu'elle est embêtée, n'a pas, on va dire, l'intelligence des joueurs du sud de l'Europe de jouer de différentes façons pour essayer d'embêter. C'est-à-dire qu'elle était, c'est l'histoire, Daniel en a parlé, l'histoire du petit morceau de pierre qui est sur l'autoroute, comment on fait pour enlever le morceau de pierre, quoi. Et c'est un petit peu ça qu'il y avait contre la Suisse. Ce soir, elle était au-dessus, et j'aimerais qu'elle ait ce problème, qu'elle puisse résoudre ce problème d'efficacité. Mais je ne crois pas que ce soit un problème de joueurs, en fait. Kai Havertz pourrait très bien être celui qui est la révélation de la fin de tournoi. Ça pourrait être Gundogan qui revient à son meilleur niveau. C'est quand même lui qui a joué le meilleur contre la Hongrie. C'était pas le cas forcément lors de la première rencontre, alors qu'il avait couru plus de 10 750 km. Ça a l'air de rien, mais ça permettait les équilibres. Puis moi, je rappelle, l'Écosse, c'est un match qui ne m'intéresse pas. C'est un match de qualification, c'est pas un match de l'Euro. C'est autre chose. Là, il y a plein de choses à faire. Mais, encore une fois, on est dans l'urgence, Nagelsmann est dans l'urgence, et on n'a pas ce vécu d'avoir battu l'Italie, d'avoir battu l'Angleterre, d'avoir battu telle sélection, et dont on n'est pas sûr de notre force. On est encore une équipe qui n'est pas à maturité, et on ne la verra malheureusement jamais à maturité, parce que Toni Kroos pourrait être critiqué aussi. Son troisième match contre la Suisse n'est pas bon. Ce soir, est-ce qu'il est si exceptionnel que ça? J'en suis pas persuadé. Mais si on commence à se poser les questions, tel joueur et pas à 100%, je pense qu'on peut changer au bout d'un moment 80% de l'équipe. Donc moi, je continue à faire confiance à Nagelsmann. Il me surprend par son discours en conf de presse. Mais je crois pas qu'on doit être dans une forme d'individualiser l'équipe en disant tel mec doit être là, tel mec, ça, c'est des choix personnels qu'on fait. Et ça se trouve, encore une fois, c'est Havertz qui va te ramener le titre à la National Match. Point barre.
Bon, à suivre. Alors sinon, l'histoire de l'orage, on joue plus côté de l'orage, maintenant.
Ça avait l'air un peu costaud, ouais. Là.
Non, mais c'était,
ouais,
c'était pour les 12 caméras et le VAR et le hors-jeu, en fait.
En plus, il y a des trous dans le toit.
Hein. Non, mais c'est.
Mais non, c'est pas
moment, il y a eu des grêlons, c'est des balles de golf. Hein.
Mm. Bah oui.
Et puis je crois que c'était
un arbitre anglais qui siffle quand il pleut quand même. C'est
non,
bizarre.
Mais c'est pas la pluie en fait, c'est à cause des orages et de l'éventuelle foudre qu'ils ont arrêté.
Il doit avoir quelques paratonnerres quand même au-dessus du stade, non?
Et va voir l'architecte du stade, Kevin. Arrêtez de perdre du temps à dire des bêtises quand même.
C'est toi là qui fais l'architecte du stade.
Et s'ils l'ont arrêté, c'est que à cause d'éventuelles foudres.
Le fameux principe de précaution.
Oui.
Bon, peut-être. Bon, bref.
Sinon, j'ai une petite blague. C'est pour Kevin.
Polo fait des blagues.
Vas-y.
Après le match contre la Suisse, je regardais une émission allemande pour voir un peu ce qu'ils voulaient faire, quels étaient les favoris de l'Euro, etc. Et donc on pose, ah ouais, alors l'Espagne pas mal, la Suisse quand même un peu en demi, etc. Et puis il y a Thomas Selmer qui dit, ouais, quand même, les Néerlandais. Et là, t'as tous les anciens champions allemands qui éclatent tous de rien. Et qui éclatent tous de rien. Donc je pense que si j'aime pas beaucoup les Néerlandais, mais bon voilà, je pensais à Kevin quand j'ai vu ça parce que j'ai éclaté de rire aussi.
J'adorerais une finale Deutschland contre Netherlands. Ce serait pas mal.
C'est vrai. Ouais.
Ah bon, bah
là, ça fait, ça fait l'issue quand même.
Ah écoute, on sait jamais.
Ils jouent quoi de la Roumanie là?
Et alors?
Mais ils vont se faire sortir par les Roumains, je te le sais.
Tu prends le pari?
Bah non, écoute,
la Roumanie, ça passe. La
tu
Roumanie,
prends le pari ou pas?
Ah écoute,
la Roumanie, je
tu prends le pari ou non?
C'est la surprise des huitièmes.
Tu prends le pari donc.
C'est la surprise des huitièmes.
Vas-y, le resto. Allez, le resto.
Tu es dans le pari tout seul, toi.
Le resto, c'est rien. Resto.
Une fessée contre l'Autriche en quart.
Non, jamais de la vie.
Ah bon?
Non, pas deux fois contre l'Autriche.
Ah.
Après ils sont flingués, hein. Je dis pas qu'ils sont très bons les Pays-Bas, mais je pense qu'ils passent quand même la Roumanie.
Ouais. Ouais. Bah, comme à chaque fois qu'on fait.
Ouais, tu le vois le complexe de supériorité néerlandais, Polo? Il est chez Kevin Diaz.
Ça me fait pousser. Moi c'est le football couche culotte.
Refusé Kevin Diaz.
Le football couche culotte néerlandais me fait rigoler.
Rotterdam et Belgique là.
Val Vaik
si tu veux. Bon, Polo, reste avec nous. Il faut que tu nous parles de la Suisse dans quelques instants. Johan Crochet va nous rejoindre. Je remercie Loïc au 32-16. Analyse.
Daniel nous parle de l'Italie.
De Suisse, Italie, dans quelques jours. Pardon ?
Il va oser venir quand même, Johan.
Ah, bah, c'est au juillet, après, il est en vacances, le gars. Ouais. Ah non, il est encore les Pays-Bas.
Ah, il est
les
Pays-Bas.
Les faire, bientôt, il sera en vacances.
Les faire, ouais.
Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit 30.
L'after foot, intégral euro.